On a voulu ces témoignages pour que vous puissiez nous raconter votre histoire, votre parcours semé de doutes, d'angoisses, mais aussi d'espoir et de joie. La communauté Fertinity, ce sont des femmes, des hommes, des couples qui vivent des situations d'infertilité telles que la PMA, les fausses couches, l'infertilité inexpliquée, l'endométriose, le SOPK ou encore l'insuffisance ovarienne.
Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Mélissande. Bonjour Mélissande.
Bonjour.
Mélissande, je suis ravie de t'accueillir déjà parce qu'on se connaît un petit peu via Instagram.
Oui.
Les auditeurs, auditrices vont comprendre pourquoi je suis si heureuse d'échanger avec toi aujourd'hui au cours de l'écoute, parce qu'évidemment, il y a des nouvelles assez incroyables et positives que tu vas nous annoncer, pour celles qui ne le savent pas encore. Mais voilà, je suis vraiment ravie d'échanger avec toi. J'aimerais déjà que tu puisses te présenter qui tu es, avec qui tu vis, qui fait partie de ton foyer, ton âge et puis là où tu habites.
Ok, ben moi je m'appelle Mélisande, j'ai 26 ans, je suis en couple avec Arnaud depuis 12 ans. Donc, j'avais 14 ans quand je me suis mise avec lui, mon premier amour.
Ouais.
Donc, ça, c'est top. Et j'ai un petit chien qui s'appelle Sully, deux chats. Et on a acheté notre maison l'année passée. Donc, tous des beaux projets qui ont commencé pour nous.
Tu habites en Belgique, hein, c'est ça?
C'est ça, oui, j'habite en Belgique, tout près de Bruxelles. Donc, il y a peut-être des expressions de chez nous. Si tu ne comprends pas, tu me le dis.
Je t'avais dit en amont que j'étais à moitié belge, donc moi tout me va, tout me va. Est-ce que tu peux nous parler déjà au préalable là aussi de ton parcours quand tu as vous avez décidé de faire un bébé ensemble et puis on sait que tu as eu un parcours un petit peu long et puis avec des examens etc. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça?
Depuis très jeune, j'avais des douleurs importantes durant mes règles. Donc, à 14 ans déjà, on m'a donné la pilule comme c'est un médicament miracle contre les douleurs de règles. Et finalement, ça n'a fait qu'augmenter au fil du temps.
Ah oui.
Donc, j'ai vu plusieurs gynécologues. Ça n'a alarmé personne, en fait. Jusqu'en 2018, une gynécologue était quand même inquiète parce que j'ai parlé des douleurs durant les rapports sexuels. C'est la seule chose qui semblait l'alarmer. Mmh. Donc, j'ai passé une IRM et j'ai eu les résultats par téléphone. Je n'ai pas vraiment été bien encadrée, je trouve, à ce moment-là. Mmh. On m'a juste indiqué, effectivement, vous avez une endométriose. J'ai demandé ce que c'était et on m'a dit, oh, si vous voulez des renseignements, il faut prendre un rendez-vous. Et j'ai été lâchée comme ça. Ouais. J'ai fait l'erreur, évidemment, d'aller voir sur Internet. À ne pas faire, parce que ce sont toujours les pires scénarios qui s'offrent à nous.
Et donc, du coup, les
angoisses pas possibles, parce que partout, je voyais infertilité, infertilité, infertilité. Mmh. C'était le mot qui, pour moi, ressortait le plus et en fait, qui me faisait le plus peur.
Et ta gynécologue a réussi à t'en parler, enfin, elle t'a donné des informations à la suite de cette IRM?
Non, comme j'ai dit au téléphone, elle m'a juste dit qu'il y avait de l'endométriose et moi j'ai fait un déni total. Oui, en fait j'ai fait un déni. Le fait d'avoir vu infertilité partout, je voulais pas me confronter à la réalité. Ouais. Et donc du coup, j'ai malheureusement pendant un an mis ma tête dans le sable et fait semblant de rien. J'avais juste lu le rapport qui me disait que j'avais de l'endométriose dans le péritoine et il a fallu un an et ma maman. Surtout pour prendre un rendez-vous chez un spécialiste. Ma maman, au bout d'un an, parce que oui, effectivement, c'est à ce moment-là qu'avec mon compagnon, on s'est dit qu'on essayerait naturellement, on verrait. Donc pendant un an, on a essayé. Et au bout d'un an, mes douleurs ne faisaient qu'augmenter. Il n'y avait toujours pas de bébé. Donc ma maman, qui a toujours été très à l'écoute par rapport à ses douleurs, etc., a pris rendez-vous sans me le dire chez un spécialiste. Mm-hmm. Et elle m'a dit, c'était au mois de juin, et elle m'a dit, dans 3 mois, tu as rendez-vous dans un hôpital qui s'appelle Saint-Luc, chez un spécialiste réputé ici dans l'endométriose, et tu as rendez-vous au mois de septembre.
Ah là là, les mamans. les voilà. mamans.
Mais c'était la meilleure décision.
Mais bien sûr, et puis c'est fou de voir que encore, enfin tu vois, c'était il n'y a pas si longtemps, pas d'accompagnement, juste un coup de fil, non, juste un envoi de documents, de résultats, et pas de revoyons-nous et parlons-en. C'est quand même hyper dommage. Et
voilà.
Bon, donc
alors
ce
j'ai dit de reprendre rendez-vous.
D'accord, ce spécialiste te dit quoi?
Ce spécialiste était un homme. C'était la première fois que j'allais chez un gynécologue homme. J'étais très intimidée au début. Ouais. Et je me suis rendue compte qu'il savait où il allait, ce qu'il faisait. Et il m'a fait un examen, un toucher vaginal pour commencer. Il m'a dit, je vais certainement vous faire mal. Déjà, j'aime bien qu'on m'explique les choses. Donc, il m'a dit, accrochez-vous bien à la table. Et en fait, il m'a trouvé, même au toucher, des endroits où j'avais de l'endométriose, j'avais les ligaments utérosacrés, je ne sais plus.
C'est possible.
C'était fort inflammé. Voilà. C'était des mots techniques.
Oui, au niveau du
donc,
sacrum.
Même les ligaments étaient bien inflammés, qu'ils confirmaient l'endométriose par rapport aux images et tout ça. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là qu'il nous a dit que d'après les images de l'IRM et son examen à lui, il y avait deux possibilités qui s'offraient à moi. Soit une opération de confort, parce que pour lui, j'étais jeune, l'endométriose n'était pas encore assez importante que pour opérer rapidement. Donc, c'était soit je fais une opération pour mon confort personnel, pour me sentir mieux, soit, parce qu'on lui expliquait que ça faisait un an qu'on essayait de faire un enfant, donc soit on se lançait dans les examens de fertilité. Et ce monsieur a été adorable. Il a dit une phrase que j'ai trouvée incroyable. Il a dit qu'avant de faire passer les examens à la femme, il était pour faire passer les examens aux hommes, parce que les femmes ont des examens beaucoup plus douloureux. Donc, avant de s'attaquer à mon cas, il voulait que mon compagnon passe un spermogramme, qu'on vérifie de son côté à lui si tout se passait bien. Et en fonction de ces résultats-là, on lancerait la suite des événements. Donc, quelques semaines après, on a eu rendez-vous avec un andrologue. Et cet andrologue va nous annoncer que mon compagnon a un spermogramme vraiment pas bon. Le ciel nous tombe sur la tête. Et elle nous annonce un nouveau terme qu'on va ajouter dans la fameuse liste de l'infertilité. Il est OATS sévère. Donc, ce terme inconnu, elle nous donne le nom complet que je ne pourrais même pas répéter tellement c'est long. Elle nous explique qu'au niveau du spermogramme, que ce soit la mobilité, le nombre, le déplacement, enfin, en fait, la totale ne va pas, quoi. Donc, elle nous conseille de refaire un deuxième spermogramme pour confirmer ce diagnostic. Là, je me suis rendu compte que c'était très, très compliqué pour mon compagnon, pour la première fois de sa vie.
C'est la question que j'allais te poser. Lui, il vit ça comment? Parce que pour parler de culpabilité tout à l'heure, comment ça se passe pour lui? Qu'est-ce qu'il ressent?
Ben, en fait, dans ce cabinet, donc c'est un hôpital universitaire où on est. Donc déjà, il y a l'endocrinologue qu'on voit pour la première fois de notre vie, accompagné d'une stagiaire, d'une stagiaire à côté. Et il se fait examiner sur la table de gynécologie, ce qui n'est pas quelque chose de courant pour un homme, je pense. Donc bien déjà, sûr. Le fait qu'il est sur cette table, je me rends compte qu'il est vraiment très mal à l'aise. Ils lui font déjà ils font des palpations, ils prennent des mesures, etc. Et je vois vraiment qu'il est mal à l'aise. Et pour le mettre mal à l'aise, il faut vraiment y aller. Ça a été la toute première fois qu'il a été face à des examens pour la PMA. En sortant de là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je culpabilisais plus pour moi, mais pour lui, parce que je me rendais compte que vraiment, lui avait du mal à accepter la nouvelle. Je comprends aussi.
C'est une vraie... Enfin, il faut rester sacrément soudé quand on a ce genre de nouvelles, bien sûr.
Oui, ça a vraiment été compliqué, je pense, pour lui et pour moi, dans le sens où on ne s'attendait absolument pas à ça du tout. Il a dû repasser un spermogramme. Donc, à chaque fois, il y a des semaines et des semaines entre le moment où il les passe, le résultat, parce qu'ils font des lavages tests en plus, comme il n'y en a pas assez. Ils font des lavages encore plus poussés du sperme pour essayer de trouver des spermatozoïdes. On nous parle de chiffres et on ne comprend pas ces chiffres. Enfin, on n'est pas médecin, donc
bien sûr.
Un peu compliqué. Puis donc deuxième test, toujours aussi mauvais. Et là, on nous parle ben, du coup de FIV. Étant donné que moi, j'ai de l'endométriose et que mon compagnon est au ATS, il n'y a pas d'autre choix que la FIV si on compte avoir un enfant.
Et
Donc,
là, ça faisait combien de temps finalement que vous étiez dans cet objectif d'enfant, puisque vous avez consulté au bout d'un an, là, il y a eu tous ces examens. Là, ça t'amène à quand finalement?
Du coup, on a eu un deuxième spermogramme, on a eu les résultats, et je dirais que ces examens-là ont duré plus ou moins 6 mois. Parce qu'en fait, après le deuxième spermogramme, il a fallu passer des tests pour mon compagnon. Donc, il a dû passer, après ces deux spermogrammes-là, une échographie, des tests génétiques pour voir si c'était génétique, s'il y avait des maladies. Par exemple, on a appris que la mucoviscidose, si un homme a le gène de la mucoviscidose, il se peut que son infertilité vienne de là. Tout ça a été écarté. Il a eu prise de sang hormonal. Enfin bref, ils ont cherché et ils n'ont jamais trouvé d'où venait ben, ce diagnostic-là finalement. Et ça, je pense que c'est encore plus compliqué à accepter. Donc
Bien
voilà, donc
sûr.
ça, c'est du côté de mon compagnon. Je vais quand même, je pense qu'il y a eu quand même presque un an d'examen entre lui et moi. Je vais dire, parce que lui a fait tous ses examens, puis ça a été à mon tour. Donc, j'ai aussi eu les prises de sang, puis attendre un cycle pour pouvoir faire une échographie à J3, voir comment étaient les ovaires. Puis j'ai eu, je ne sais pas si tu connais l'échographie IFOSI.
Oui, de
Donc,
nom. Oui.
ils ont remarqué que j'étais quelqu'un de très angoissé, et du coup, la douleur chez moi est beaucoup plus importante parce que je suis très très trop à l'écoute de mon corps.
Oui, ton
Et donc
angoisse prend le dessus, en fait, sur
voilà,
voilà.
au lieu de me faire l'examen pour voir les trompes, l'utérus, etc. Avec le fameux liquide radio pour la radio, moi on m'a mis donc une mousse. Ça s'appelle l'échographie IFOSI, c'est un peu moins douloureux, donc
Oui,
c'est une mousse
c'est ce
avec.
qui ressort souvent quand on a des personnes très angoissées ou qui appréhendent beaucoup l'examen, puisqu'en plus, comme tu le disais tout à l'heure, enfin, en tout cas, souvent on va voir sur Internet et là on n'a que les retours un peu négatifs de c'est très douloureux, etc. Moi, la première, cet examen-là, j'étais tombée dans les pommes, hein, donc comme quoi il peut l'être douloureux, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, on préconise cette mousse qui semble être moins douloureuse, effectivement.
Exactement.
Et
Donc
je ne sais
du
pas
coup, moi j'ai
pourquoi on
eu
ne le
les.
fait pas à tout le monde avec la mousse, en fait.
Je ne comprends
C'est
pas
une
non
question à
plus.
poser à notre gynécologue.
Exactement. Bonne question. Et donc du coup, j'ai eu cet examen qui quand même ne fait pas du bien malgré tout, mais je me
Et
suis
non.
dit, comme il y a pire, on va mordre sur sa chique. Et donc du coup, on s'est rendu compte que j'avais ma trompe droite qui était un petit peu bouchée, mais que c'était rien d'alarmant, sinon tout allait bien. Puis j'ai eu bah, des rendez-vous avec. On a changé en fait d'andrologue. Donc c'est toujours un andrologue qui m'a suivi comme le problème principal venait de mon compagnon. Donc on a changé d'andrologue dans le même centre parce que l'andrologue qu'on avait de base était la chef qui avait énormément de patients. Et on n'accrochait pas spécialement non plus avec cette dame-là. Donc bon, elle était sympa, mais sans plus. Et nous, on avait besoin de quelqu'un de sympa avec plus.
Bien sûr,
Donc.
bah oui, et puis
Voilà.
faire équipe en fait, tout simplement, hein. Oui, c'est
Exactement.
sûr.
Surtout qu'à ce moment-là, on ne se rendait pas compte de ce qu'était la PMA. On n'est toujours pas commencé le vif du sujet.
Eh oui,
Donc,
eh oui.
on découvre une nouvelle andrologue. Incroyable. Je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux. C'était,
Ah,
enfin, pour moi,
super.
c'était un rayon de soleil. On est tombé sur un médecin avec un cœur énorme, passionné par son métier, passionné par les gens, passionné par l'humain. Enfin, vraiment, je l'adore. Je l'adore. Donc, on est très content d'avoir changé. On tombe sur quelqu'un qui enfin nous explique ce que c'est OATS, ce qu'est la PMA, qui
Mais
prend
oui.
1 heure de son temps, pas 10 minutes, mais 1 heure de son temps. Il y a du retard, mais on sait pourquoi. Et
Oui.
donc, on découvre cette dame qui, donc au bout de presque un an d'examen, nous propose du coup de commencer la PMA.
D'accord. Et donc de basculer en FIV directement
C'est ça,
ou
exactement, en
ouais.
FIV directement, avec
Eh
les
oui.
résultats du spermogramme, FIV-ICSI, il n'y a pas d'autre
Eh oui.
choix. À ce moment-là, tant qu'à faire, on ne perd pas de temps, on y va. Donc,
D'accord.
entre les premiers essais naturels et vraiment mettre les pieds dans la PMA même, 2 ans se sont écoulés,
Eh oui.
mais au moment de commencer mon traitement, qui arrive le Covid.
Et oui.
Donc, et oui. Mais vraiment, j'ai à une semaine, donc j'avais, en fait, mon traitement commençait par la prise de la pilule. Donc, je commence la pilule, j'arrête la pilule. Quelques jours après, j'ai commencé mes injections. Entre l'arrêt de la pilule et les injections, tout ferme. On est confiné chez nous et je me retrouve donc du coup du mois de mars, il me semble, c'est ça, hein, mm-hmm. Je pense que le premier.
Oui, c'est environ, oui.
Ouais, enfin, mars, c'est ça. Et donc on m'appelle pour me dire de reprendre la pilule, enfin continuer la pilule. Du coup, je l'avais arrêtée quelques jours, mais de la reprendre et de rappeler en fait à chaque début de mois. Donc, chaque début de mois, je prenais mon téléphone parce que ce confinement a quand même duré longtemps. Je reprenais ce téléphone, j'appelais, je restais vraiment des heures en attente parce qu'en fait, on était des centaines de femmes, je pense, à...
Mais bien sûr.
Reprendre ces traitements. Et donc, du coup, à chaque fois, on rappelait, on tombait sur des infirmières qui étaient dépassées, ça s'entendait, qui étaient tellement désolées pour nous. Rappeler le mois bien prochain sûr. Et ainsi de suite comme ça. Et donc, du coup, on en arrive... aux grandes vacances, donc fin juin, début juillet. Mmh. Là, une infirmière qui prend vraiment le temps de... Parce que je me m'appellerai au téléphone, je devais commencer en mars, avril, mai, juin, juillet, on était déjà à 5 mois d'attente, ça faisait long. Je voulais savoir où mettre les pieds. Et du coup, cette dame-là m'a expliqué qu'en fait, le centre allait réouvrir pendant l'été, mais qu'il allait avoir... des priorités. Alors, le mot priorité, je l'ai pris comme un gros coup de poing dans la figure. Sur le moment, je ne comprenais pas ce que voulait dire priorité. Et je me mets à pleurer. Et là, elle m'explique les priorités, c'est les dames qui ont des maladies, qui doivent préserver leurs ovocytes par rapport à des cancers, des couples qui ont plus de 40 ans. Et en fait, le fait qu'elle m'explique, je comprends le mot priorité, enfin. Je comprends qu'elle m'explique du coup qu'ils vont passer par des tranches d'âge. Qui vont donc au-dessus de 40 ans, puis au-dessus de 35 ans, puis au-dessus de 30 ans. Et je lui dis, madame, à ce moment-là, j'avais 25 ans, je pense.
Madame, moi, je ne vais pas être une priorité dans cette histoire, finalement.
Oui. Ouais. Mais
le fait qu'on t'explique est compréhensible aussi. Enfin, voilà, tout s'explique. Hein.
Et, ouais. Et donc, du coup, elle me demande de rappeler le mois d'après. J'ai appelé tous les mois. Et donc, au mois de juillet, fin juillet, début août, j'arrive à les avoir au téléphone. Et donc, oui, elle m'a aussi demandé d'arrêter la pilule. C'est ça, elle m'a demandé d'arrêter la pilule, puisqu'on ne savait pas combien de temps ça allait prendre, et de rappeler à mon prochain cycle. C'était donc ça. Et donc, du coup, j'arrête la pilule, et mon cycle après, je l'appelle. Donc, je peux appeler l'andrologue pour reprendre rendez-vous, et qu'au moins, comme ils reprennent les consultations, on pourrait voir dans le calendrier quand me fixer. Et donc, du coup, j'ai un rendez-vous, je dirais, à ce moment-là, plus ou moins, très rapidement.
D'accord.
Et la dame, donc notre andrologue adorable, nous cale en PMA début septembre. D'accord. Donc finalement, c'est plus vite que prévu. Et donc, tout ça nous amène à septembre 2020. Donc, j'ai fait ma première injection le 6 septembre. Et c'est encore le moment où il y a la naïveté, parce qu'on ne connaît pas la PMA, et qu'on se dit que ça va être le remède miracle, que grâce à la PMA, je vais tomber enceinte comme ça, puisque ce sont les préjugés qu'on entend partout autour de nous, que c'est la facilité, et pas du tout. Je me suis très rapidement rendu compte les effets secondaires, la fatigue, les émotions. J'étais quelqu'un de très, très, très émotionnel. Là, on était à fond dedans, je pleurais pour tout et n'importe quoi. Enfin, c'était... voilà, on découvre vraiment que la PMA, c'est pas si simple, mais il y a toujours cette petite part de naïveté en soi qui se dit, c'est la bonne, c'est suffira d'une FIV et voilà.
Donc, oui, et puis après tous ces examens où tu as enfin des réponses finalement, hein, on t'explique un peu ce que tu as, ce que ton conjoint a, etc. Je pense que c'est assez naturel aussi et humain de se dire, ah bon, bah voilà, ça y est, j'ai une réponse, on les attend toutes, hein, même si parfois les réponses sont terribles, mais j'ai une réponse et donc on a une solution. Et tu le vois plus comme ça, ce qui n'est pas plus mal de commencer la PMA de cette manière-là, mais forcément, on peut vite déchanter. Et là, c'est
exactement. Ça a été le cas. Donc, ma première FIV, j'ai ma première ponction où j'ai, il me semble, de tête 23 ovocytes. Mm-hmm. Moi, je ne m'y connais pas du tout. Je ne sais pas si c'est bien, si ce n'est pas bien. Mm-hmm. Je me rends assez via Instagram que c'est un beau ratio.
Ah oui, ils te
Donc
disent
j'ai vraiment.
pas, ils t'en parlent pas vraiment à là où tu es suivi, non.
Non, en fait, on me parle. En fait, mon centre, et je suis avec le recul contente qu'ils agissent comme ça. En fait, on passe les échos, les prises de sang, et on n'a aucun résultat. Donc, on a une infirmière qui nous appelle après chaque contrôle pour nous dire, voilà, vous continuez votre traitement en faisant ci, en faisant ça. En fait, ils ne veulent pas qu'on interprète les résultats, qu'on les compare avec d'autres personnes. Ils veulent qu'on reste focus sur nous-mêmes. Et donc, du coup, je suis dans un centre où je
D'accord.
n'avais jamais reçu mes résultats. On reçoit nos résultats avec le médecin à la fin des transferts, tous les transferts d'une fille. Enfin,
D'accord,
donc,
d'accord. Ah.
après un échec. On a enfin, une consultation avec notre médecin qui reprend tout depuis le début avec nous et nous explique donc du coup tout ce qui se passe. Mais au moment de la PMA et du traitement, on n'a pas de résultat par papier, par oral, mis à part il faut faire ci, il faut faire ça, enfin voilà.
D'accord.
Donc, ce qui n'est vraiment, dans mon cas, vraiment, vraiment pas plus mal. Première ponction, 23 ovocytes, ponction très compliquée. Puisqu'on m'a fait la ponction sans anesthésie générale, on m'a proposé l'hypnose
Oui.
et je ne suis pas du tout réceptive à l'hypnose. Ce
D'accord.
qui fait que j'ai eu quelque chose de plutôt rare. J'ai en fait mon cerveau qui est à un moment parti, mais mon corps était complètement là. Donc je ressentais la douleur et je me sentais prisonnière de mon corps. Je n'arrivais pas à hurler que je sentais tout. Je sentais vraiment tout. Et en fait, j'ai eu mon corps qui s'est complètement débattu. Donc, ils ont dû finir par m'anesthésier d'urgence parce que mon corps, enfin, je me débattais pour exprimer ma douleur.
Ah oui.
Et donc, du coup, je me suis réveillée. J'étais dans une couverture de survie,
Oui,
là,
oui.
en métal. J'avais un masque d'oxygène. J'étais complètement tétanisée. Enfin, j'étais pas bien. Vraiment, ça a
Ouais,
été
ça
la
s'est mal
pire expérience.
passé.
Voilà, ça
Oh
s'est
là
vraiment
là.
pas bien. C'était pas ma gynéco à moi qui a fait ma ponction en plus, puisque dans mon
Ouais.
centre de base, il y a des tournantes. Donc, il y a une gynéco qui s'occupe un jour des ponctions, un jour des contrôles, et elles tournent entre elles comme ça. Donc, on voit un peu tout le monde dans ce centre. Et donc, du coup, première ponction, pas du tout bon souvenir. Moi, j'étais complètement terrorisée à l'idée de si ça ne fonctionne pas, y retourner.
D'accord.
Mais on m'annonce 23 ovocytes, que c'est très bien,
Bah
je
oui.
rentre chez moi. On me dit d'attendre le lendemain, de rappeler à midi pour avoir le taux de fertilisé. Et je passe de 23 à 11 fertilisés. Mais quand on est en
D'accord.
paie, en début de paiement, on ne se rend pas compte, on ne réalise pas. Je me dis comment je peux passer de 23 à 11? Enfin, je ne comprenais pas à ce moment-là. Enfin, je
Avant de
découvre, quoi.
devenir experte, au début, c'est
Voilà,
sûr que
dans la
ça fait
matière.
bizarre.
Voilà. Donc, je passe de 23 à 11, je me dis, oh là là, moi, je commence à paniquer en me disant, déjà, en un jour, je passe de 23 à 11, qu'est-ce que ce sera, J3?
Ouais, bien
Et
sûr.
donc, du
Mais...
coup, on me dit que si on ne me rappelle pas, ben, c'est qu'il faut venir à J3, à telle heure, au centre, pas de nouvelles, j'y vais. Et là, on m'annonce, très content, que j'ai 4 embryons. Mais moi, quand j'avais 23 ovocytes de base et que je passe à 4 embryons, des PMA toujours, j'étais déçue en me disant comment c'est possible. Enfin, vraiment, j'ai fait des grands yeux. Et on m'a dit, Madame, vous vous rendez pas compte, mais c'est vraiment super, on va
Mais
pouvoir
oui.
congé. Et donc, du coup, voilà, j'ai un transfert d'un embryon.
Ah
Ils en
ouais.
congèlent deux ensemble et ils en congèlent un tout seul.
D'accord, ok.
Donc, premier transfert, ah là là là, on touche son ventre, on s'imagine déjà enceinte,
Bien
on
sûr.
fait attention à tout. C'est, enfin, moi j'étais enceinte à ce moment-là.
Ouais.
Bonjour. Et première déception,
Ouais.
et pas des moindres. Mais on se dit encore décongelé, c'est pas la fin. Enfin voilà.
Ah oui, vous
Donc
y croyez encore, vous y croyez.
voilà, exactement. On attend donc la prise de sang négative. J'avais mes règles très rapidement, moi. Donc, après transfert, j'ai quasiment toujours eu mes règles très rapidement. Donc, très
D'accord.
rapidement, en fait, réalité. Et donc, premier transfert, premier échec. On me propose un tech, nouveau terme
D'accord. Oui.
Donc, qu'est-ce qu'un
Exactement.
problème? Donc, on m'explique. Et donc, on transfère. Donc, j'ai un cycle de. Après, nous, après ponction, il y a obligatoirement un cycle de repos. Donc, enfin, ponction,
OK.
transfert frais, puis un cycle d'office de repos pour refaire descendre les hormones,
Bien
et puis
sûr.
de nouveau un tech, donc de deux embryons. Moi qui rêve d'avoir des jumeaux.
Ah oui, c'est
Waouh,
vrai?
deux
Tu rêves d'avoir des
embryons.
jumeaux depuis toujours?
Ah oui,
Ouais.
toujours rêvé. Mon compagnon a un jumeau. Et
D'accord.
c'est pour nous, avoir des jumeaux, c'était waouh. Donc,
Ouais.
voilà. Là, mon compagnon, lui, par contre, commence à... Enfin, il est quelqu'un qui a les pieds sur terre et il se rend compte que la PMA, ça ne va pas être une partie de plaisir. Moi,
Eh oui.
toujours, mais non, tu vas voir, ça va aller. Lui, Mélie, reste avec les pieds sur terre, chaque chose en son temps, parce que je me projette très vite. Hein. Moi, j'ai les embryons dans mon bidou, j'ai déjà envie de faire la chambre du bébé à ce moment-là. Donc voilà, transfert de deux embryons, re-échec.
là.
Et puis, ben, je découvre encore une nouvelle étape dans la PMA, c'est que ben, le dernier embryon qui était congelé tout seul, je commence, donc je fais le déclenchement, tout ça, et le jour, non, la veille du transfert, on m'appelle, je trouve ça bizarre qu'on m'appelle, et on me dit, écoutez, on est vraiment désolé, mais votre embryon n'a pas survécu à la décongélation.
Ah
Aïe. Donc
ouais.
ça, je ne comprends pas que c'était possible, donc très, très.
Ah, la déception. Bah, je pense évidemment qu'ils ne te préviennent pas de tout ce qui peut se passer.
Voilà.
Parce que je crois qu'il y a tellement de possibilités que voilà.
Oui.
Et puis, bah, voilà, l'idée n'est pas de faire peur non plus et de donner des
Exactement.
informations négatives tout de suite. Mais c'est sûr que oui, ce sont des choses qui arrivent. Ouais. Donc,
Et donc
déception,
voilà,
évidemment.
vive une bouclée, déception, larmes, vraiment, vraiment pas bien. Première FIV, j'ai pas vraiment été en contact avec ma gynéco à moi. On me dit de reprendre rendez-vous avec elle. Je reprends rendez-vous avec elle. Il faut de nouveau attendre, évidemment, parce que les centres PMA sont quand même assez remplis. Il faut attendre 2 mois, donc très long. Et on revoit donc notre gynéco. Et je lui explique que vraiment, ça a été compliqué pour moi de ne pas l'avoir comme repère, que je
Bien
suis
sûr.
quelqu'un qui a besoin d'avoir des repères, des têtes connues. Bon, maintenant, j'ai vu tout le monde dans le centre, je sais qui est qui, mais que c'est en elle que j'ai confiance et elle est complètement à l'écoute. Elle m'explique tout ce qui a été, ce qui n'a pas été. Elle m'explique, enfin, elle reprend complètement mon dossier, on revoit tout ensemble avec mon... Non, à ce moment-là, il faut savoir que normalement... Donc, j'ai vécu toute cette première FIV seule parce que mon compagnon ne pouvait pas venir à cause de...
Du Covid.
Donc ça a été horrible pour moi de
Bien
vivre
sûr.
ça seule. Mon compagnon, c'est mon pilier dans ma vie. Donc ça a été vraiment...
Et pour lui aussi,
Je...
je suppose que de te voir tout traverser seul et d'être un peu impuissant, c'est
oui.
des étapes terribles hein, pour ce Covid,
Oui.
pour les femmes comme pour les
Vraiment.
hommes, tu vois, qui attendent, enfin les compagnons. Et voilà.
Première FIV, il a été en fait donc juste là pour son petit échantillon. Et puis il a
D'accord.
dû donc le jour de la ponction attendre dans la voiture. Et comme ça s'est pas bien passé, ben, il a attendu une après-midi complète sans nouvelles dans la voiture, dans
Ah,
l'hôpital, pour savoir ce qui se passait.
d'accord.
Donc ça a été très 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 compliqué cette première FIV. Donc ça aussi explique. Et en
Oui.
fait cette gynéco quand elle est arrivée dépitée que je lui explique tout ça, elle prend son beeper et me dit, vous avez le numéro de votre compagnon? Puis je dis oui, je lui donne et elle appelle en disant Monsieur, si vous êtes devant l'hôpital, puisqu'il m'attendait devant l'hôpital, je vous propose de venir discrètement à telle porte, à tel étage. Et
Ah ouais.
du coup, elle a fait mon
Elle a senti que tu avais besoin de
faire.
soutien.
Voilà, et donc, du coup, normalement, elle ne pouvait pas le faire, mais elle l'a fait
Ah
à
oui.
chaque fois, malgré que pendant. En fait, toutes mes filles, à part ici, non, les 2 dernières, là, les compagnons tout doucement ont pu réintégrer le centre PMA. Mais sinon, les 2 premières filles, c'était hors de question. Et elle, à chaque fois, elle faisait en cachette, elle le faisait venir. Donc, encore une fois, merci à elle. Et donc, du coup, il vient. Elle nous réexplique tout, en fait. Donc,
Ça, je
voilà, elle
pense
nous
que c'est
propose de changer
essentiel
de.
hein, pour celle, effectivement, voilà, de vraiment essayer d'avoir le plus possible des explications ou en tout cas au moins un dialogue et un discours. Alors, pas mal de gynécos, malheureusement, hein, n'ont pas le temps, prennent pas le temps, mais c'est vrai que c'est essentiel pour pouvoir repartir, hein, c'est sûr.
Oui, exactement. Donc, FIV 2, la gynéco change complètement de traitement. Donc, je passe du Purégon, pour celles qui connaissent, au Ménopur. Elle me dit que là, on ne va pas viser la quantité, mais la qualité, parce qu'on avait beaucoup. Mais finalement, donc on est passé de 23 à 11 fertilisés, voilà, qu'il fallait peut-être plus se concentrer sur la qualité et en produire moins. Donc, on passe au Ménopur. Et FIV 2, j'ai déchanté très rapidement, puisque je me suis rendu compte, en fait, ils disent à voix haute, ovaire droit, follicule de X millimètres et follicule de X millimètres. Et je me rends compte qu'il y en a beaucoup moins que la première fois. L'examen passe beaucoup plus vite au premier contrôle. Et
D'accord.
donc, du coup, je réalise que cette FIV-là ne va pas être très productive, mais je laisse dans ma tête que qualité, pas quantité.
Exactement, et il suffit d'un. Exactement.
Et donc, du coup, là, on avait donc, fait la ponction sous anesthésie générale par ma gynéco. Donc, ma gynéco, mise à part les contrôles, où là, elle pouvait pas être là, elle est venue à ma ponction. Toutes mes ponctions, après, elle les a faites, elle. Elle se faisait pour se faire remplacer. Donc, elle savait quand je passais et elle se faisait remplacer un amour, encore une fois.
Oh là 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 là. On va malheureusement devoir te demander son nom et son adresse à la fin de l'enregistrement. Je te préviens.
Ah. Je la donnerai, si vous voulez. Et donc, du coup, ma gynéco, à chaque fois que je la voyais rentrer dans la salle, dans le bloc opératoire, en fait, je me mettais à pleurer de joie de la voir, vraiment.
Oui, non, mais la vraie équipe, exactement.
Voilà, c'est ouais. Ouais. Et donc, du coup, là, par contre, j'ai des chances, puisque j'ai, je pense que j'avais 6 ovocytes de ponctionnés.
Ah oui.
Ouais. Toujours la comparaison, 23.
Oui, on part, évidemment. Mais oui.
Voilà. Puis, j'ai l'appel le lendemain, il y en a 4. Et puis, après, le jour du transfert, on est toujours avec des J3 à ce moment-là. Le jour du transfert, on dit qu'il y en a un bon, un très mauvais. C'était pas ma gynéco qui me l'annonce, je me mets à pleurer.
Oh,
et je demande qu'est-ce qu'on fait du mauvais. Puis la dame vous le disait, normalement, on l'utilise pas, mais je vais voir avec le laboratoire si on peut pas exceptionnellement vous transférer les deux, vu qu'il y en a un de très bonne et un de mauvaise qualité. Mm-hmm. Et donc j'ai un transfert. Et cette fibre-là, première accroche. Je sens cette fois-là que à la fin j'ai des petites nausées, des trucs comme ça, je trouve ça bizarre.
Aye.
Encore une fois, Arnaud toujours, mais Lisande, les pieds sur terre. Mais je fais un test le week-end, donc ma prise de sang est un lundi, je fais un test le vendredi, je pense, légère barre, samedi légère barre, dimanche légère barre. Ouais, donc dimanche la nuit à 4h du matin avant ma prise de sang, je fais un clair bleu digital, enceinte 1 à 2 semaines. Pas du tout la réaction que je m'imaginais de moi-même et de mon compagnon. On était tous les deux, on se regardait dans le blanc des yeux. Moi, je m'étais dit, on va sauter de joie, on va courir partout. Pas du tout, on était sur la retenue en se disant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai.
Eh bien, chaille chaudée, craint l'eau froide, hein, évidemment, que quand le parcours est compliqué, tu finis par te dire, oh là là, ne nous emballons pas.
Voilà, mais à ce moment-là, toujours très naïve, je ne me rendais pas compte que ces barres très très claires qui ne fonçaient pas étaient un signal d'alarme pour moi à ce moment-là, puisque ouais. Vraiment, c'était très très léger, j'y croyais à fond, je ne savais pas. C'est la première fois de ma vie que je vois une barre sur un test, donc voilà.
Ouais.
Prise de sang à 11. Donc, on me dit c'est ni blanc ni noir. On est dans la zone grise, là, madame. Ouais. C'est soit ça s'écroule, soit ça monte, mais le taux n'est pas folichon, pas ouf. Et en fait, après cet appel-là, je suis donc à mon travail, je suis enseignante, je suis aux toilettes et je me mets à saigner juste après avoir accroché cette bonne.
Ouais.
Donc, mon corps m'a vraiment dit hey, cocotte, c'est pas la bonne cette fois-ci.
Ouais, t'as eu raison de ne pas t'emballer. Voilà. Ouais, c'est ça.
Mais c'était très très dur parce que j'étais persuadée d'être enceinte, donc j'ai vraiment vécu ça comme on m'a parlé de grossesse biochimique, fausse couche précoce et tout ça. Ça m'a vraiment fait très mal à ce moment-là. En tout cas, j'étais vraiment pas bien.
Je comprends.
Et puis l'anecdote, j'apprends que ma petite sœur à ce moment-là
évidemment.
Est enceinte, et oui, puisque elle est super fertile. donc, voilà. En fait, elle apprend sa grossesse au moment de ma fausse couche. Donc, ça a été très compliqué. Là. On a une relation très, très fusionnelle.
Mais oui, mais pour elle aussi, certainement. C'est ça qui est terrible. C'est que ça met dans des situations où tout le monde devrait se réjouir et où, là, c'est compliqué. Oui. C'est compliqué pour tout le monde, bien sûr.
Très compliqué pour tout le monde. Mais l'amour dans la famille
c'est super. A
levé tout ça. Donc,
ouais.
Là, je décide quand même de faire une longue pause. Donc, c'est en février, fin février, début mars, et on a fait une pause jusqu'à fin juin, début juillet. Donc là, j'ai vraiment pris du temps pour moi. J'en avais vraiment besoin. Je suis quelqu'un qui est peu patiente pour certaines choses. J'ai eu dur à attendre tout ce temps, mais je savais que j'en avais besoin et mon médecin me l'avait clairement conseillé aussi. Épreuve, faut prendre du temps pour soi. J'avais rien de congelé en plus, donc j'ai fait.
D'accord. Non, mais t'as bien fait. Il faut aussi, quand on peut se le permettre, tu vois, aussi en termes d'âge, etc., de se dire voilà, j'appuie 2 secondes sur ce bouton pause pour reprendre un peu d'énergie.
Ouais, donc voilà. Et puis après, fin juin, début juillet, FIV3. Et là, On reprend donc un traitement. En fait, ma première fille, c'était du gonalef, pas du purégon. Donc, à ma première
D'accord.
fille, c'était du gonalef. Deuxième fille, du ménopur. Et j'ai un médecin qui, pour elle, il faut tout essayer. On ne reste pas sur un échec, on change. FIV 3, je passe du coup là, à ce moment-là, au purégon. Et là, ben, de nouveau, très beau résultat. Au fil des contrôles, on se rend compte que ça passe bien. À la fin de cette FIV 3, on se rend compte que je suis SOPK d'ailleurs,
D'accord.
par rapport à en fait, mes stimulations avec ces produits-là sont vraiment très fortes. Et on me fait passer la prise de sang de l'AMH, qui était très élevée aussi.
Ah
Donc, on se rend
ouais.
compte que je suis SOPK à ce moment-là. Il a fallu 3 FIV quand même.
Oh,
Mais
c'est
bon, pour
fou.
te dire que les résultats étaient très bons, enfin, on s'entend avec SOPK, on se rend vite compte que la quantité ne fait pas la qualité,
Et
évidemment.
non, et oui.
Donc, du coup, à ce moment-là, j'ai 19 ovocytes à la ponction,
D'accord.
mais je finis avec parce qu'au fil du temps, on se rend compte qu'il reste quand même pas mal. Et donc, du coup, on veut pousser, enfin, le labo veut pousser pour la toute première fois à J5.
D'accord.
Et donc, très stressante, J5. Je me dis, j'avais jamais eu de J5, j'avais très peur de me retrouver avec rien finalement.
Ah oui,
Et
ouais.
à J5, je vais à l'hôpital et on m'annonce que du coup, j'ai 3 beaux J5. Incroyable.
Oh, génial.
Là, j'étais super contente, ravie. Enfin voilà. On me transfère 2 embryons, échec, que je ne prends pas
D'accord.
spécialement comme un échec à ce moment-là. Je pense que j'ai appris de mon passé
Ouais,
FIV et
ouais.
donc du coup. J'étais triste, mais je me disais, t'as encore un J5, enfin, c'est une chance que t'as. Enfin, donc voilà, septembre, du coup, transfert de J5, donc septembre de cette année, 2021. Malheureusement, toujours pas d'accroche, rien du tout,
Oh
négatif.
là là là
Là,
là
ça a
là.
été parce qu'on s'approche de la FIV 4. Chez nous, en Belgique, on a droit à 6 FIV,
D'accord.
donc c'est rassurant,
Oui.
mais. On se rend compte qu'on arrive à la fin du parcours. Enfin, je veux dire, on a passé la moitié du parcours, quoi.
Oui, ça
Et donc,
avance. Mais voilà,
voilà.
ça avance pas forcément dans le bon sens, quoi. C'est que
Voilà, exactement. Enfin, ça dépend comment on voit ça. Parce que moi,
oui.
je me suis fait du coup par une psychologue en dehors et un psychiatre à ce moment-là, donc après ma FIV 3, parce que j'ai eu une très mauvaise expérience, pardon, avec la Matrice Lab. Et là, ça
D'accord.
a été le déclencheur. Pour voir le psychiatre du centre PMA. J'ai vécu à la Matrice Lab comme une torture, c'est le
Ah
mot pour moi en tout cas. Oui,
oui.
j'ai
Oui,
mon
oui,
compagnon
oui.
est tombé dans les pommes à côté de moi, tellement je souffrais. Enfin,
Oh là
d'ailleurs,
là.
on a annulé la Matrice Lab en plein examen et on n'y est pas retourné pour moi parce que c'était trop pour mon corps. En fait, mon corps,
Ouais,
je
ça
pense
fonctionnait. Ouais, toi,
que.
tu l'as pas supporté. D'accord. OK.
Voilà, donc je pense que mon corps a vraiment fait un blocage, stop. Ça, c'était l'examen le pire du pire pour
L'examen
moi.
de trou, en fait.
Voilà, c'est ça. Je pense que
D'accord.
c'est vraiment ça l'examen de trou. Et donc, du coup, là, j'ai vu le psychiatre qui lui m'a dit, Madame, ce que vous voyez comme des échecs ne fait que vous approcher de la victoire. Et cette
Alors, c'est
phrase-là.
très vrai, c'est ce que dit notre psychologue, hein, Karine d'ailleurs, sur Fertinity, c'est qu'en plus, à chaque fois, finalement, tu avances, parce que là, voilà, il y a des changements aussi de traitement, il y a toi aussi qui avances dans ton parcours, et voilà, lentement, mais sûrement. Donc, tu peux le voir aussi de cette manière-là. C'est vrai que on le dit souvent, voir un psy à ce moment-là peut vraiment aider aussi, quoi. Vraiment, vraiment. Ouais.
Donc, la psychologue hors centre qui me suit depuis le tout début de la PMA, elle m'a aidée à avancer sur la gestion de l'anxiété et
Ben
lui
oui.
m'a aidée à avancer sur le fait de ne pas voir en fait la PMA comme. Parce que je voyais ça comme un fardeau, moi, à la fin. La
Ah oui.
PMA, moi, c'était lourd, quoi.
Ben
Enfin,
bien
les gens ne se
sûr.
rendent pas compte de l'impact que ça a sur une vie. On ne vit que pour ça. Tu ouvres
Mais je
ton
pense que
frigo, t'as.
seules celles qui passent par là comprennent. Hein.
Oui,
C'est un peu, c'est
exactement.
malheureux,
Exactement.
mais c'est même si les familles, etc., peuvent être extrêmement bienveillants, et tant mieux. Malheureusement, tant qu'on n'est pas là à regarder sa culotte toutes les 5 minutes, c'est quand même très compliqué de se rendre compte.
Du coup, ben, FIV 3, raté de nouveau. Et
Ouais.
là, de nouveau une pause jusqu'en janvier, où là, on change complètement tout. Donc, on arrête le traitement court, donc on appelle ça court dans mon hôpital, et
D'accord.
on passe en long, où on me met en ménopause artificielle. Donc, ménopause artificielle 1er janvier 2022, injection ménopause artificielle pour bien commencer l'année.
D'accord.
Au verre pendant un mois, et puis après, début de la stimulation, et première FIV 4 s'avère se terminer à cause du
Là
Covid. Parce que
là!
Sans aucun symptôme, en fait, quelques jours avant ma ponction, je passe le test PCR et je suis positive.
non.
Donc, je prends ça comme une claque parce que dans mon centre, ils font les ponctions pour les personnes qui ont le Covid, mais juste pas de transfert. Et là, ma gynéco, pour elle, c'est hors de question. Cette fille-ci est très précieuse. On
Ouais.
prend aucun risque,
C'est ça.
ni pour moi, ni pour les embryons.
Bien
On
sûr.
annule tout. On pense à... Je la remercie d'ailleurs, mais on pense à tout ce qui peut mener à une réussite et le Covid n'en fait pas partie.
Bien sûr.
Donc, grosse claque, mais encore une fois, ces explications m'aident à avancer.
Ah, mais tellement.
Et
Mais oui.
voilà. Et donc, du coup, je repars en FIV, donc ma FIV 4 mars, avril, en avril.
Avril, ouais.
Ouais.
Si les... mes
En
comptes sont
avril.
bons, c'est plutôt vers avril.
Oui, c'est ça. Attends, je vérifie, mais il me semble que rapidement, oui, c'est ça. Oui, je me suis oubliée de te dire qu'en fait, on s'est rendu compte que j'avais un problème de prolactine dans tout ça, dans ces FIV. Et donc, du coup, examen de prolactine qui fait que ça peut aussi jouer sur beaucoup de choses dans la fertilité.
Bien
Donc,
sûr.
en fait, tout ce mois-là, donc, en fait, depuis janvier, je suis sous traitement par rapport à la prolactine aussi. Voilà,
D'accord, d'accord.
je le mets. Et donc, effectivement, on commence donc en mars, janvier, février, mars, mon injection de décapeptyle, donc pour me mettre en ménopause artificielle de nouveau.
D'accord.
Donc on reprend le même long traitement
Ouais,
parce que
ouais.
j'avais bien. Et puis le 14 avril, on commence les injections pour la FIV 4. Du coup, ma FIV 4, je la prends avec beaucoup de recul. Je ne m'imagine rien. J'ai un déclic qui me fait dire qu'il est temps de penser à moi parce que je suis très anxieuse avec mon travail. Je suis enseignante. J'ai pas envie de laisser
D'accord.
mes petits loulous. À chaque FIV, quand je suis absente pour la ponction et le transfert, je m'en veux de mettre mon équipe un peu dans l'embarras puisqu'il faut me faire remplacer. Mes
Ouais.
petits loulous, j'ai des petits loulous, oui, en plus de ça, d'accueil, donc qui ont
Hi.
3 ans.
Oh là là.
Ouais, donc là, je culpabilise et tout ça. Et cette fois-ci, je me dis, mais Lisande, tu penses à toi. Tes bébés, c'est ta priorité. Il faut vraiment que tu penses à toi. Et si je me mets en tête depuis le mois de janvier, il faut savoir, donc tous les jours, je me répète, quand tu seras en FIV, après ton transfert, tu te mets en certificat médical sous les conseils de ma gynéco, de mon médecin traitant, de mon psychologue et de mon psychiatre. Donc tout le monde était
Exactement.
OK avec le fait que de penser à moi et rien qu'à moi.
On
Et je pense que
s'arrête
ça a
et
fait,
voilà. Mais oui.
ouais, je pense que ça a fait une grande différence. Ouais, donc je suis encore en ménopause, puis la stimulation, puis la ponction qui se passe super bien. Je me réveille, tout va bien. Enfin,
Ciel. Ouais.
j'ai vraiment vécu cette FIV nickel, quoi. Il y a eu,
Ouais.
en fait, c'est ce que je me suis dit, il y a eu aucune embûche, tout va sur des roulettes, c'est très bizarre.
Génial.
Première fille où il y a rien qui déconne, quoi. Je me dis
Bien
que je
sûr.
me suis dit, oh là là, donc j'ai 22 ovocytes de ponctionner. Nouveau, très beau ratio. Ouais, donc super, super contente.
Ah ouais.
Après ces 22 ovocytes, donc du coup, c'était déjà OK qu'on pousse à J5, vu que ma FIV 3 s'était bien passée à J5. S'il y en avait plus de 4 à J3, on les poussait d'office à J5. Donc, à J3, ils sont plus de 4. J'appelle pour demander ce que je peux faire, si je viens pour un transfert ou pas. On me dit non, non, on pousse à J5. Et donc, du coup, à J5, donc à J... Attends, hein. À J1, j'ai 8 ovocytes qui sont en petit date avec les spermatozoïdes de monsieur. J'adore cette image-là, à ce moment-là. Font rencontre, bisous, bisous, et ça a l'air de très bien se passer. À J... Ils sont plus de 4, on ne dit pas combien, mais ils sont plus de 4. Et à J5, du coup, j'arrive à l'hôpital et il y a un médecin qui vient et qui me dit, enfin, je vois derrière son sourire, enfin, derrière son masque, un énorme sourire. Et en fait, c'est la gynéco qui a formé ma gynéco à moi. Et donc, en fait,
D'accord.
vraiment, un deuxième rayon de soleil dans tout ça, où je me rends compte que c'est le même style de médecin, enfin, voilà. Et elle me dit, waouh, vous vous rendez pas compte, et vous avez deux magnifiques blastocytes, ils sont incroyables. Enfin, bon, bref, je me dis, waouh, pas mal. Et
Génial.
donc, du coup, déjà, j'étais très contente avec deux. Et puis, elle laisse un grand blanc, et elle me regarde dans les yeux. Moi, j'étais en train de pleurer de joie. Et elle me dit, madame, moyen, nom de famille, ce n'est
Oui.
pas tout. Et puis, j'ai dit, comment ça, c'est pas tout? Et elle me dit, On en a deux autres à congeler. Aussi
Oh,
bon niveau.
oh là là, magnifique.
4J5. Ah, pour quelqu'un en 4J5, c'est la danse de la joie. Franchement,
C'est
après
sûr.
un long parcours comme ça, très très contente. Et elle nous conseille du coup d'en mettre deux. Ce qu'on accepte évidemment. Je rappelle qu'on rêve d'avoir des jumeaux.
Bien
Et on
sûr.
congèle les deux séparément. Elle nous dit donc du coup. Je vous conseille de congeler deux autres séparément parce que si ça fonctionne et que vous avez des jumeaux, une chance sur quatre, donc si elle accroche, il y a une chance sur quatre pour que les deux s'accrochent et que vous ayez des jumeaux. Si jamais vous avez envie d'agrandir l'équipe, vaut mieux y aller doucement. Donc à ce moment-là, on rigole avec ça parce qu'on se dit, bon, au bout de quatre filles, on en a déjà eu des transferts, voilà. Mais on accepte donc le transfert de deux embryons sous certificat médical à la maison. Je fais tout ce que je veux, y compris pour la toute première fois, des tests tous les jours. Parce que je me
Oh
suis
là là.
toujours freinée. On dit toujours, il ne faut pas faire des tests, c'est mauvais, blablabla, bla, bla, pour le moral. Mais comme je suis quelqu'un de profonde, moi, j'avais besoin de savoir très rapidement.
Je pense que
Et en
surtout qu'il
fait,
faut faire comme on le sent, en fait. Il faut
exactement,
surtout...
voilà. Et moi,
Ouais.
je m'étais beaucoup freinée là-dessus et je m'étais dit, je suis à la maison cette fois, je regarde mes petites séries et le matin, bah, petit rituel, je fais mon petit test. Et en fait, j'avais donc le lendemain du transfert une légère barre presse de vitrelle. Puis
D'accord.
deux jours après, les deux jours suivants, plus rien. Et puis ça a commencé à foncer. Donc très rapidement finalement.
Ah
Et
ouais.
foncer très fort. Donc j'avais vraiment
Rien
les
à voir
barres.
avec les premiers tests. Oui, c'est
Ah
ça.
non, non, non. Rien à voir avec la FIV2 où c'était très léger, où il fallait chercher avec la loupe, la lampe de
Ouais,
poche et
d'accord.
compagnie. Là, j'ai commencé à marquer très rapidement et très fort. Donc je me suis dit waouh. Mais encore
Ça
une
y
fois,
est.
toujours pas la réaction, on saute au plafond. Avec mon
Ouais.
compagnon, on se dit juste waouh, ah ouais, là on ne sait pas dire que ça n'a pas fonctionné. Il y a une barre, mais on attend la prise de sang. Et donc, du coup, ben, première prise de sang, j'ai un taux, donc je suis très stressée. Il faut savoir, à cette prise de sang-là, j'ai très peur qu'on m'annonce que les taux ne sont pas ouf, malgré que la barre est très marquée. Enfin, voilà,
Ouais.
j'avais fait des tests Clair Blue, il y avait marqué plus de 3 semaines. Alors qu'à mon tout premier, ma FIV2, là, il y avait marqué 1 à 2 semaines. Là, au même moment, il y a marqué plus de 3 semaines. Je me disais, waouh, prise de sang, m'appelle et on me dit, Madame Moyen, vous devez être entre 30 et 50. Vous ne vous rendez pas compte, vous êtes à 279. Et je me dis, quoi? 279? Et je dis, mais c'est bien ou pas?
Oui, c'est ça.
C'est pas du tout en phase avec la réalité, quoi. Puis il
Ben
me dit, mais
oui,
oui,
mais
mais
oui.
c'est. Enfin, voilà, on reprend rendez-vous dans 2 jours. Il faut que le taux ait doublé. Vous devez être un petit peu plus de 500 et quelques. Enfin, bon, bref, elle me donne un chiffre. Moi, pendant ces 2 jours-là, je flippe, je vérifie, toujours actuellement d'ailleurs, hein, ma culotte pour
Ah
vérifier
bah
qu'il n'y ait pas
ça.
de tartre, rien
Bien
du tout.
sûr, bien sûr.
Je refais une prise de sang. Et donc, du coup, là, on me rappelle et on me dit, donc, je vais être à plus de 500 et quelques. J'étais à 910.
Oh là
Et
là.
là, on commence à venir titiller l'histoire de est-ce qu'il ne serait pas deux? On me dit, Madame, Madame, il ne faut pas vous emballer, les taux ne veulent rien dire, mais effectivement, vous avez des taux très hauts qui ne doublent pas, qui sont plus que doublés en fait. Enfin,
Bien
si on ne
sûr.
parle pas de doublés à ce moment-là, on a vraiment des taux qui sont hauts, quoi. Et donc, ben voilà, très contente, mais
Oh là
je
là.
découvre que la PMA laisse des séquelles vraiment très compliquées à gérer. Et je pense que ça, on n'en parle pas assez. À l'après-PMA, on ne pense pas en fait. On est tellement dans l'APMA même qu'on ne pense pas au après. En
Bien
fait,
sûr.
on idéalise l'après. Moi, je m'étais dit un test pipi positif, une prise de sang positive et je serai la plus heureuse du monde. Je suis heureuse, oui, mais j'ai toujours très peur
Mais bien
qu'il arrive
sûr.
quelque
Ah ben
chose.
ça quitte pas. Ça, c'est certain.
Voilà,
Après des
exactement.
parcours comme ça, ouais, c'est normal. Eh
Très,
oui.
très
Ouais.
compliqué.
Et donc, une
Et
écho, qu'est-ce qui...
ah ben, en fait, mon ventre gonfle très fort, très rapidement. Et
D'accord.
comme j'avais 22 ovocytes, j'appelle le centre pour dire que j'ai le ventre gonflé et très dur, vraiment très, très dur. Et on me dit, ah, mademoiselle, il faut venir voir qu'il n'y ait pas de l'hyperstimulation parce que
Oui,
déjà,
oui, oui.
votre ponction, il y avait un petit doute. Donc, venez au centre. Donc là, j'étais à 5 SA. C'est ça, oui. Donc, j'ai ma première écho. Et là, je vois toujours ben, la même gynéco qui m'a fait le transfert, qui me voit
Ouais.
arriver, qui fait l'écho et qui me regarde et qui me dit, qu'est-ce que je vous avais dit? Et
Oh
puis, là, je dis, ils sont deux? Et elle tourne
là
l'écran,
là.
il y a deux petites poches. C'était beaucoup trop tôt pour voir s'il y avait un embryon, des battements de cœur, tout ça, mais il y avait déjà deux petites poches bien
Oh
implantées au
là
niveau.
là là là. Magnifique.
explique
Ouais.
évidemment qu'il faut attendre de voir que les deux, que dans les deux poches, il y a un embryon, parce qu'avoir deux poches ne veut pas spécialement dire que les deux
Bien sûr.
enfin, porteront un bébé, en fait. Donc voilà, rendez-vous du coup ben, 2 semaines après à 7SA.
Oui.
Et là, elle me dit, là, il faudra quand même avoir les petits battements de cœur. Et
D'accord.
donc du coup, ça, je pense que c'était le moment le plus compliqué de ma vie à ces 7 SA dans la salle d'attente. J'étais tellement angoissée qu'il y avait un autre couple qui a changé de place, qui s'est mis tout au bout de la salle d'attente, tellement je crois que je
Oui,
transpirais la
tellement tu
pitié,
transpirais
la
l'angoisse. Ouais,
pleurs.
ouais.
Voilà. Mais mon compagnon, qui n'est pas du tout quelqu'un d'angoissé, me disait mais t'arrives vraiment à me stresser, là, je t'ai
Oh,
pas
le
bien. Et
pauvre, mais oui.
avec une équipe d'une bienveillance, la dame, donc la secrétaire du centre, m'a vue dans cette petite salle d'attente. Elle a demandé à l'autre couple d'aller boire un café parce qu'il y avait beaucoup de retard. Elle m'a fendé mon masque pour que je puisse respirer. Elle m'a dit, qu'est-ce que vous aimez comme musique? Elle m'a mis une
Ouais.
musique dans la salle d'attente. Elle a été
Elle
me
t'a mis
chercher de l'eau.
vraiment, elle t'a mise à l'aise. Ouais. Elle a essayé de te
Complètement. Et
détendre.
voilà. Et ça n'a pas eu beaucoup d'effet sur mon anxiété, mais par contre, ça a eu effet sur le fait de me dire que j'ai vraiment choisi un bon centre à ce moment-là,
Bien
parce que
sûr,
vraiment
mais oui.
toute l'équipe PMA en fait a été toujours très adorable. Quand j'avais un échec, j'ai des infirmières qui sortaient de leur bureau pour me prendre dans les bras en période
Ah là là,
Covid, par contre
bah
je
oui.
pleurais dans la salle d'attente. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment eu de la chance par rapport à ça. Et donc ben, vient l'écho des 7SA où je rentre, j'ai une gynéco que je ne connais pas plus que ça, mais bon bref, qui voit sur mon dossier que je suis angoissée. Et elle me demande si ça va. J'ai écouté, j'ai vraiment très peur. Elle me dit, mais Madame Moyen, enfin, si vous venez pas avec la peur au ventre, ce ne serait pas vous. Enfin, ça fait partie de votre personnalité. On s'inquiéterait. Donc du coup, voilà. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle met directement l'écho et elle tourne l'écran vers nous. D'emblée, quoi, et elle me demande ce que je vois. Et en fait, elle me rend actrice de tout ça en me demandant
Ouais.
d'observer et de lui dire ce que je vois. Et donc, je lui dis, je vois deux poches. Et elle me dit, oui, mais encore, qu'est-ce qu'il y a dans les poches? Et je me rends compte qu'il y a ben, deux, enfin, dans chaque poche,
Petit
un
haricot.
petit, voilà, c'est un petit haricot tout mignon. Et je lui dis, il y a des embryons? Puis elle me dit, oui, mais regardez. Et alors, elle met la sonde pour faire les petits battements de cœur. Et on entend les petits battements de cœur pour la première fois.
Ah
Et
là là.
là, c'est dingue, mais mon regard se tourne vers mon compagnon et pas vers l'écran. Et je vois la joie dans ses yeux. Et je vois ses petits yeux tout humides. Et je pense que c'est
Ah
la
ouais.
plus belle image que j'ai eue pendant ce parcours PMA. C'est de voir, d'entendre d'un côté les petits cœurs et de voir les petits yeux de mon amoureux remplis de larmes, de joie et de bonheur. Et je souhaite ça vraiment à toutes les filles, en
Ah, je
PMA,
comprends.
parce que c'est vraiment le moment le plus beau que
Ouais,
j'ai
oui.
vécu
Oh.
grâce à ça. Donc, j'entends les petits cœurs à 7SA. On me redonne rendez-vous 2 semaines plus tard, donc à 9SA, pour bien voir que c'est une grossesse évolutive, que tout se passe bien. Et donc, du coup, j'ai eu rendez-vous à 9SA la semaine passée. Et
Ouais.
c'est là que j'ai réalisé que j'étais réellement enceinte et que je portais la vie, parce que c'est à ce moment-là que l'embryon commence. Enfin, les embryons, du coup, commencent à bouger. Donc, à l'échographie, on nous a vraiment bien montré bah, qu'il y a les petits bras qui commençaient à sortir, les petites jambes. C'est très petit, mais c'est super mignon. Et en fait, de les voir bouger, ça m'a beaucoup plus émue que d'avoir entendu leur cœur. Je ne sais pas pourquoi,
Ah
mais je crois que là,
oui.
j'ai réalisé que j'avais deux petits... Moi, je les appelle mes petits oursons. Que j'avais mes deux
Ouais.
petits oursons qui étaient vivants parce qu'ils bougeaient, alors qu'avant, c'était un petit point, un petit haricot... Un petit haricot fixe, quoi. Je veux dire, voilà,
Bien
là on les
sûr.
voyait bouger. Il y en a un qui avait vraiment la bougeotte, donc là on réalise vraiment, enfin, je réalise vraiment les choses. Mon compagnon, c'était les petits
Et Arnaud, alors, est-ce qu'il réalise aussi? C'est vous êtes
cœurs. Lui a réalisé directement avec les petits cœurs. Donc, une
Ah
fois qu'il y
oui.
a eu les petits cœurs, lui, il sur son nuage, et on est très opposés dans le sens où, lui, pour lui, une fois que les petits cœurs étaient lancés, il voit pas ce qui pourrait arriver
Oui,
de
d'accord.
mal.
Ouais, ça y est.
Et
Pour lui,
ah.
c'est. Alors que toi, tu avais
Voilà,
encore
lui,
cette.
c'est la machine est lancée.
T'as encore
La
cette
machine
angoisse qui te lâchera peut-être pas. Hein. D'ailleurs, faut pas se leurrer malheureusement, mais peut-être que t'as. Et il faut d'ailleurs hein, essayer de se déstresser et d'avancer, et surtout avancer au jour le jour. Et voilà. Mais c'est vrai que il y a quand même cette angoisse qui reste, hein, qui est naturelle, bien sûr.
Ouais, complètement. Donc, moi, enfin, le problème aussi, c'est que je suis fort renseignée sur tout le sujet de la PMA, mais pas que. Je me suis aussi beaucoup renseignée sur ben, les grossesses après PMA. Je suis énormément de PMettes ben, sur Instagram
Ouais,
et on
ouais.
voit beaucoup de belles histoires. Et il y a aussi des histoires qui sont beaucoup plus douloureuses par rapport aux fausses couches, aux maladies de bébé, enfin des choses comme ça. Et donc du coup, tout ça me trotte dans la tête. Et lui,
Bien
n'est pas
sûr.
du tout renseigné sur ce sujet-là. Donc pour lui, une fois que les petits cœurs étaient lancés, ben voilà, ça ne peut que bien aller.
Oui, mais c'est bien aussi que voilà, hein, vous souteniez là-dessus, parce que là, il y a encore du temps, donc c'est important de garder un esprit positif, bien évidemment. Mais
Exactement, ouais.
d'accord.
Lui me rassure beaucoup,
Ouais,
et
ouais.
heureusement, parce que si j'étais seule face à ça, je pense que ce serait très, très compliqué.
Bien sûr.
J'ai besoin de quelqu'un qui me raisonne et qui me rassure, en fait. J'ai besoin
Oui, et son
d'être
côté
face à
terre à
quelqu'un.
terre va t'aider pendant cette grossesse, c'est certain, c'est certain.
Voilà, exactement. Moi, je me fais des films, hein. En fait, j'anticipe tout et j'imagine tous les scénarios possibles pour me protéger de tout ce qui pourrait arriver. Et c'est pas la meilleure des solutions,
Non, bien
donc
sûr, bien sûr. Et donc là, tu es arrêtée, tu travailles, c'est comment se passe ce
alors
début de process?
moi en Belgique en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on travaille avec des enfants de moins de 6 ans, on est écarté. Donc par exemple, moi je suis pas immunisée
D'accord.
contre le CMV. Je me suis
Oui.
rendu compte grâce à Instagram, parce que j'ai une super chouette communauté Instagram que je remercie beaucoup, elles m'ont beaucoup aidée pendant tout ce parcours, faut dire ce
Ah
qui
ouais.
est.
Ah ouais.
Une espèce de bienveillance, d'amour qui, vraiment, le mot amour, c'est
C'est vrai.
important entre nous. Ça m'a vraiment, je pense que Instagram m'a beaucoup aidée dans ce parcours. Et donc, du coup, je me suis rendu compte via Instagram que beaucoup de filles en France ne connaissaient pas du tout le CMV. Et
Oui.
ça dingue. J'ai parlé à beaucoup d'institutrices en PMA et institutrices enceintes qui ne savaient même pas ce que c'était,
Ah
alors que chez nous, de
ouais,
sens,
c'est
c'est
vrai
d'office
que ouais.
donc toxo, CMV, enfin toutes les maladies qui pourraient
D'accord.
mettre en danger une grossesse. Et
Donc
donc
tu
le
es
CMV,
écartée, donc
c'est...
ça veut dire que tu ne travailles plus ou ça veut dire que tu fais un autre travail sans accompagner les enfants?
Voilà, c'est ça. En fait, je suis écartée dans les bureaux
D'accord.
de l'école où je travaille à mi-temps, et l'autre mi-temps, je suis écartée dans les bureaux de la commune où je travaille.
D'accord,
Donc,
d'accord.
voilà, je fais du bureau, ce qui n'est pas mon domaine. C'est pas
Oui.
évident de découvrir un nouveau métier non plus,
Bien
mais
sûr.
voilà, c'est pour...
Mais là, c'est
Ils
pour
appellent
la
ça
bonne cause. Ouais, bien
voilà,
sûr, bien sûr.
la protection à la maternité, parce que je ne suis pas immunisée contre le CMV, ni la
D'accord.
toxo, ni rien du tout. Donc,
D'accord.
voilà. Donc, je suis écartée dès ma prise de sang positive. Donc, j'étais sous certificat jusqu'à ma deuxième prise de sang. Et à ma deuxième prise de sang, j'ai pris contact avec ma direction pour l'annoncer. Et j'ai directement été écartée, aucun risque, rien du tout. Donc,
Bien sûr, bien
voilà.
sûr. D'accord.
Je suis... Mais du coup,
Donc, tu
j'ai dû
vis cette
l'annoncer très tôt.
grossesse toujours avec un peu d'angoisse. Heureusement, Arnaud essaie de
Oui.
t'accompagner là-dessus. On te réitère le fait que tu avais testé la sophrologie sur notre site. Retourne-y, parce que
Avec
ça va
Antoine, que
t'aider.
je remercie. Oui, merci
Antoine,
Antoine.
voilà, Antoine fait des miracles. Mais je
Oui.
pense que voilà, tu sembles très bien accompagné, enfin vous semblez bien accompagné aussi par vos familles, vos amis certainement. Donc voilà, il faut
Exactement.
ça va aider à avancer sereinement. Ça, c'est sûr aussi.
Oui.
Hein.
Et aujourd'hui, j'ai un rendez-vous important. Enfin, j'ai le dernier. En fait, ils appellent ça la clôture du dossier PMA. Donc, je vais voir pour la dernière fois ma gynéco qui m'a encadrée pendant cette année.
Ah mais
Et
c'est
je
un beau
suis.
cadeau, c'est un beau cadeau que tu lui fais aujourd'hui avec cet enregistrement
Elle
parce
m'a fait le
que
plus beau cadeau.
mais oui,
Oui.
tu pourras lui envoyer aussi parce que des
Oui.
personnes comme ça, c'est des pépites, hein. C'est vraiment
Ah, complètement. C'est vraiment le
quel
terme. Ça a
accompagnement.
été. Elle répondait toujours à mes mails, elle était toujours à l'écoute. Enfin, ça a été vraiment très important. Et je me rends compte que ça a été un chamboulement aussi pour moi d'être enceinte et de sortir tout doucement de la PMA, parce que la
Bien
PMA
sûr.
a animé pendant
Bien sûr.
plusieurs années ma vie. Et du coup, je suis un peu perturbée de perdre mes repères et je vais devoir en construire des nouveaux. Et
Mais
ça,
tout
on n'en
à fait.
parle pas non plus.
Tout à
On ne
fait.
parle pas
Tout
du fait qu'il y a l'après-PMA et que c'est un nouveau. un nouveau cycle de vie, quoi. Donc,
donc
voilà, je vais devoir dire au revoir à la PMA et j'espère que ben, tout se passera bien pour la suite.
Ah ben, évidemment, c'est tout ce qu'on vous souhaite, hein, Arnaud et toi, et à ces deux, tu les appelles comment? Tu dis tes ours, tes oursons, c'est ça? Voilà, on pense fort à tes oursons qui s'accrochent et que tout se passe bien et qu'on ait la capacité dans quelques mois à venir rajouter en dessous de ton témoignage, en dessous de ta jolie photo rayonnante, et ben tes deux oursons réunis, oursons oursonnes, hein, on ne sait pas. Et, on verra effectivement ce qu'on pourra rajouter comme jolie photo, mais c'est évidemment tout ce qu'on te souhaite. On a été ravis déjà de te rencontrer quand tu avais testé les services un peu de Fertinity, et c'est vrai que d'apprendre ce genre de nouvelles et de pouvoir te faire témoigner bon, ok, c'est un début de grossesse, mais ça a marché. Donc,
c'est important de le dire. Oui.
C'est important sûr. De le dire, c'est important de porter cette parole aussi, que parfois ça prend du temps, c'est du désespoir, et puis parfois ça marche. Et
Oui. Moi, il y a des fois où j'étais au fond du trou et je me disais, mais c'est pas possible, ça va jamais fonctionner. Ça n'a pas fonctionné tout le temps, pourquoi est-ce que ça fonctionnerait maintenant? Enfin, moi, j'arrêtais pas de dire ça à mon compagnon. Je lui disais, mais tu te rends pas compte, on est à la quatrième. Enfin, pourquoi ça fonctionnerait maintenant? Et voilà.
Et il y a eu de l'accompagnement. Tu fais bien de signaler que bah oui, il y a eu un changement de gynéco pour trouver cette pépite incroyable, que tu as vu aussi des psychologues, qu'il y a eu la sophro. Enfin, tout ça est important aussi, je pense, pour traverser ces parcours. Chacun trouve ce qu'il peut, ce qui lui convient le mieux, bien évidemment. Mais je pense que là-dessus, voilà, ta nature angoissée a peut-être aussi aider à te dire, bah, il faut que je me fasse accompagner. Ça, c'est important aussi.
Il faut bien s'entourer. C'est très, très important, et avoir confiance en son médecin. Je pense que c'est la clé de beaucoup de choses. Beaucoup de témoignages de PMET qui se sentent mal à l'aise avec leur médecin, etc. Et c'est, dans des moments pareils, c'est pas possible.
Quand on peut changer, il ne faut pas hésiter. Et cette communauté Instagram bah, dont on parle encore tous les jours, puisque nous aussi, hein, on est présents et on voit cette force, je dirais, c'est là aussi cette équipe de filles qui comprennent parfaitement, ça c'est inestimable hein, comme chance. Écoute, Mélisande, on va terminer ce témoignage. Bien évidemment, on invite toutes celles qui l'écouteront à aller te suivre et voilà, on aime ton énergie, on aime voilà évidemment tout ce que tu dégages et on pense énormément à toi pour que tout ceci, cette grossesse se passe le mieux du monde.
Merci et merci beaucoup à vous, enfin à toi et à ton équipe. Il faut quand même dire que sur Instagram, vous êtes hyper actifs, vous répondez. Moi, j'ai pu tester en plusieurs vidéos sur votre site et vous me demandez tout le temps des retours. J'ai pu parler avec Antoine, avec toi. Enfin, vous demandez des retours pour que ce soit encore mieux que ce ne l'est déjà. Et je trouve ça vraiment super bien. Je trouve ça merveilleux ce que vous faites, c'est hyper important aussi.
Tu verras que quand on est passé par ces parcours-là, on n'oublie pas. Et il y a du bon qui peut ressortir de tout ça, heureusement. Donc,
exactement.
Si on peut s'aider encore, c'est top. Écoute, Mélisande, on t'embrasse et puis prends bien soin de toi.
Merci, gros bisous.
Gros bisous.